Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Je pense qu'on essaie trop de rentrer dans des cases, d'envoyer son CV au bon endroit et tout. En fait, il faut se dire en fait qu'est-ce que j'aime bien faire, quelles sont les boîtes ou les gens qui m'inspirent et d'aller les voir et de leur écrire, de les rencontrer. Et en fait, ça fait mûrir, ça fait avancer et c'est comme ça qu'on crée un parcours. Et je pense que ça, on n'apprend pas trop à le faire. Il y a peu de gens qui le font finalement et on se laisse un peu porter, et moi le premier. Et il ne faut pas se mettre de limites et je pense pas avoir peur de prendre ses passions ou ses centres d'intérêt hyper au sérieux en fait. C'est là-dedans qu'on trouve un métier, un truc qui fait du sens quoi.
J'y vais, mais j'ai peur. De cette phrase devenue un emblème dans la philosophie de vie de Guillaume Gibault est né le slip français. Créé en 2011, cette marque de bons à portée français construit une industrie du textile plus juste, plus innovante et riche d'un écosystème créatif. Alors des interviews sur l'histoire du slip, il y en a beaucoup. Mais derrière tous ces slips, il y a surtout Guillaume et son histoire bien personnelle. Parce que cette success story cache aussi des doutes, des bifurcations et des élans de vie. Alors à quoi ressemblait la vie de Guillaume quand il avait 20 ans? Quels étaient ses rêves, ses occupations, ses passions, ses doutes? Et à nous, quels conseils il nous donnerait? Guillaume revient aujourd'hui sur son enfance et sur son parcours, sur ses doutes et sur ses passions. Il nous parle de la classe préparatoire, de ses tips d'organisation, de l'importance de la discipline dans l'accomplissement de nos projets et de ses rêves après le slip. Cet épisode est une dose de motivation et d'énergie pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat et qui hésitent encore à franchir le pas, mais aussi pour tous les autres qui ont des rêves mais qui n'osent pas les suivre. Alors lancez-vous, au pire ça fera des souvenirs, des apprentissages pour la suite ou des slips pour toute la vie. Cet épisode en lui-même est le fruit de nombreuses relances, de doutes et de persévérance. Alors ne lâchez rien.
Est-ce que tu m'entends, Roger? Ça va? C'est bon?
On y va?
Let's go. Ready.
Salut Guillaume.
Salut.
Merci de me recevoir au bureau du slip. Je suis très heureuse d'être ici.
Il y a un vrai décor avec des vrais slips.
Il y a plein de slips, il y a aussi des t-shirts.
Il y a pantalons. Des slips de plein de marques d'ailleurs. C'est dans la salle un peu d'observation.
Oui, c'est vrai, je vois Calvin Klein là.
Ouais, tu vois, on regarde. Dans l'autre salle, il n'y a que les nôtres. Mais là, on est dans la salle des slips des autres.
La concurrence. Donc, tu es le fondateur du fameux slip français, Guillaume. Alors, tu as fait énormément d'interviews à ce sujet, sur l'entrepreneuriat, sur l'histoire du slip, comment tu en es arrivé ici. Donc on va quand même en parler, évidemment, mais j'aimerais surtout aujourd'hui que l'on aille décrypter qui tu es, Guillaume, et comment tu en es arrivé là. Donc je suis allée dénicher pas mal d'informations sur toi avant de venir, et il paraît que le petit garçon que tu étais, il se posait pas trop de questions. Alors, il ressemblait à quoi, le Guillaume, quand il avait 7 ans?
Ah oui, 7 ans, c'est petit. Moi, j'ai toujours été... effectivement, je me posais pas trop de questions. J'étais plutôt bon élève, gentil, sage et discret. Alors, je pense que je suis pas tout à fait différent aujourd'hui, mais j'étais pas forcément celui qui tentait plein de trucs, entrepreneur. Tu vois, je pense que c'est pas ce qu'on disait quand j'étais petit. Ouais, j'étais heureux, je faisais plein de sport. J'ai un petit frère qui est un peu plus jeune que moi et je suis passé par plein d'envies. J'ai eu envie d'être comme tous les petits garçons, je crois, pilote de chasse, puis boulanger, puis et à la fin, ça s'est un peu arrêté sur je voulais être celui qui appuie sur le bouton quand on fait décoller les fusées. voilà, ça c'était mon autour de 10 ans, c'était vraiment ça que je voulais faire.
Ok, trop chouette. Et à quel moment tu as commencé à te poser des questions sur ce que tu voulais faire?
Bah vachement tard, parce que j'étais déjà sorti de l'école, donc vraiment 24 ans. Ouais. Donc vraiment j'ai déroulé sans trop me poser de questions, et c'est vraiment en fait quand j'ai démarré un premier job en sortant de l'école. Donc je suis sorti d'HEC en 2009, j'ai démarré le graduate programme chez General Electric, Et vraiment, en démarrant ce job, je me souviens, je faisais des Excel de comptabilité dans une tour à la Défense en costard. Je prenais le RER, j'étais coincé et tout ça. Et je me souviens être allé au chiottes et me regarder dans le miroir et me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi? Et me dire, en fait, j'ai fait 10 ans d'études, j'ai fait sur le papier la meilleure école de commerce de France. En fait, je fais un truc où je ne comprends pas ce pourquoi je suis là. Et là, faut bouger. Et en fait, c'est vraiment là où je me suis dit. Et là, c'était dur parce que du coup, je me suis dit, mais merde, en fait, je me suis jamais posé de questions, je me suis jamais, enfin, tu vois, j'ai pas construit mes stages ou ce que je voulais faire avant en fonction de construire quelque chose, quoi. J'avais un peu été, je m'étais un peu laissé embarquer, quoi.
Et alors, le choix d'HEC, pourquoi ce choix? Est-ce que c'était une façon pour toi justement de pas te poser les questions au moment où il faut se les poser?
Écoute, moi je pense que ce qui explique pas mal dans ma vie, sans rentrer dans l'histoire totale, mais c'est que moi mon père a eu un grave accident de voiture quand j'avais 5 ans, et traumatisé crânien et tout ça, donc c'est une situation familiale pas évidente, et donc du coup je pense que du coup, avec du recul, je pense que j'ai fait en sorte d'être sage, de pas ramener plus de sujets dans ma famille et de bien faire tout ce qu'on me demande. Du coup j'ai bien travaillé à l'école, et personne n'a fait HEC dans ma famille ou d'école de commerce, mais du coup j'ai bien travaillé. J'étais bon en maths et j'étais bon en anglais, en histoire. Donc du coup, je voulais faire bien les choses. Et du coup, au moment de choisir, j'ai dit bon bah une classe prépa, pourquoi pas. J'ai fait ça, ça marchait bien. Et du coup, j'ai été pris HEC. Mais c'était pareil, c'était pas un vrai choix de me dire je veux faire ça parce que ça va m'emmener faire ci, ça. C'était vraiment en fait comment je fais pour être bon élève et bien faire ce que pas trop faire de vagues. Je crois que j'étais pas mal dans cette optique là. Et du coup, finalement, au bout de 10 ans, tu vois, de sortir de là et de me rendre compte que ce à quoi je suis arrivé ne me plaît pas. Aussi parce que, voilà, j'avais 24 ans, j'ai un peu plus mûri et je me dis, bah merde, en fait, peut-être que j'ai une histoire qui fait que je me suis pas posé de questions jusque là, mais là, à un moment donné, faut commencer à se les poser, quoi. Donc, je crois que c'est ça. Si je fais une analyse psychologique rapide, je crois que c'est ça.
Est-ce que tu recommanderais la prépa aujourd'hui?
Je crois que, est-ce que je recommanderais? J'en sais rien, mais je sais pas si c'était à refaire, je referais pas forcément parce que je trouve ça quand même super particulier comme truc parce que pendant 2 ans ou 3, tu mets beaucoup de choses de côté dans un moment où tu te construis vachement entre 18 et 20 ans. Ça a plein de bons aspects, ça t'apprend à travailler, ça t'apprend plein de trucs, mais je trouve que tu mets quand même ta vie en parenthèse dans un moment qui est ultra important, quoi, et t'apprends pas forcément toutes les bonnes choses. Et puis aussi, je trouve que les écoles de commerce, finalement, en fait, elles prennent des gens qui sont forts, et à la sortie, ça reste des gens qui sont forts, mais c'est pas forcément au cours de l'école de commerce ou de la prépa qu'ils ont appris tout ça, en fait. C'est juste que le procédé de sélection est plutôt bien fait. Donc, je crois pas que je le referais comme ça.
Dans quel état d'esprit tu étais après la prépa au moment de rentrer dans la vie des grands? Qu'est-ce que tu t'es dit? Ah, ok, c'est le moment de se poser des questions.
Après la prépa, c'était pas encore la vie des grands, c'était vraiment encore la vie des
ouais, après l'école de commerce. Après l'école, après la HEC, ouais.
Ben, en fait, j'avais finalement, en allant chez General Electric, j'avais déjà un peu l'envie de faire autre chose. Mais autour de moi, mes parents, tous mes potes allaient dans des cabinets de conseil, dans des bancs, dans des trucs, et j'ai pris ce truc-là sans grande conviction. Je suis allé au forum carrière HEC, j'ai vu General Electric, j'ai passé l'entretien, j'ai été pris, mais c'était pas un truc dont j'avais particulièrement envie ou réfléchi. Je trouvais que c'était bien sur le papier, c'était bien payé, et voilà, ça cochait les cases, quoi. Et du coup, je pense que c'est vraiment en démarrant le job le premier jour que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Et ce monde des grands, ouais, en fait, j'en connaissais pas grand-chose.
Et autour de toi, tes copains de promo, tes amis, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont changé de job en même temps que toi, ou pas?
Ouais, alors pour le coup, je suis un des rares à avoir monté ma boîte autour de moi, dans mes potes d'école et dans mes potes au sens large. Mais ils ont tous changé de job, ils ont tous démarré des métiers plutôt classiques. Et puis en fait, au bout de 3 ans, voilà, ils sont tous dit en fait ça me fait chier ou ça me plaît pas. Et beaucoup sont partis dans d'autres métiers, et ont vécu peut-être un peu ce même truc à différents moments. Et...
Pour les jeunes qui aujourd'hui sont dans cette position-là, qui ont peut-être 20 ans, 22 ans. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire avec le recul?
Moi, je leur dirais de se faire confiance et surtout de tester, en fait. Et je pense d'essayer de partir un peu comme tu le fais toi dans ta démarche, en fait, de partir de ce qu'ils aiment bien faire dans la vie et de voir comment ils peuvent en faire un métier, même si ça fait peur, même si ça plaît pas aux parents, à l'entourage, même si ils sont pas 100% convaincus, mais d'aller au bout, en fait, de ce qui leur plaît, en fait, et de dire, je pense qu'on essaie trop de rentrer dans des cases, d'envoyer son CV au bon endroit et tout. En fait, il faut se dire, en fait, qu'est-ce que j'aime bien faire? Quelles sont les boîtes ou les gens qui m'inspirent? Et d'aller les voir et de leur écrire, de les rencontrer. Et en fait, ça fait mûrir, ça fait avancer. Et c'est comme ça qu'on crée un parcours. Et je pense que ça, on n'apprend pas trop à le faire. Il y a peu de gens qui le font finalement et on se laisse un peu porter. Et moi, le premier, alors qu'en fait, Enfin, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup aujourd'hui et que j'aurais dû pu démarrer avant, mais de se dire, ouais, en fait, dès que je vois quelque chose qui m'inspire ou je trouve cool, en fait, sur les réseaux aujourd'hui, en plus sur Insta et tout, enfin, tu vois, t'écris aux gens, les gens te répondent, et ça marche super bien, quoi. Donc, il faut pas se mettre de limites et je pense pas avoir peur de prendre ses passions ou ses centres d'intérêt hyper au sérieux, en fait. Voilà, de se dire que c'est là-dedans qu'on trouve un métier, un truc qui fait du sens, quoi.
Donc toi aussi tu as eu peur, mais tu y es allé et tu t'es lancé dans le vide avec des slips. Et derrière cette phrase devenue un emblème chez toi, j'y vais mais j'ai peur, qu'est-ce qu'il se cache ?
Il se cache plein de choses. J'aime bien cette phrase déjà parce qu'elle vient du film Les Bronzés qui reste une belle référence. Et ensuite elle veut dire beaucoup de choses. C'est que quand tu démarres dans un projet ou que tu montes ta boîte, en fait il y a beaucoup de peur, d'angoisse, de questions et souvent le rôle d'entrepreneur justement c'est de pas les montrer en fait. C'est d'être sûr de soi, d'être toujours au taquet, de quand on dit cette fameuse question, alors ta boîte, toujours dire ça cartonne et tout, t'entends pas d'autres réponses. Alors qu'en vrai la réalité c'est jamais ça. La réalité c'est que c'est toujours plein de doutes, plein de questions, plein de trucs qui marchent pas, mais que ton job c'est de dire que tout va bien quoi. Et c'est ça. Donc du coup c'est ça que j'essaie de partager avec j'ai peur, c'est de dire à tout le monde en fait qui que vous soyez quoi, Steve Jobs, Barack Obama ou les Daft Punk, voilà, quand vous faites un nouveau truc, vous flippez et c'est normal et ça fait partie du truc et donc voilà, de pas hésiter à se lancer, pas hésiter de se dire qu'on va prendre des portes, il y a des trucs qui vont pas marcher mais c'est pas grave quoi. Et moi j'adore regarder des docus, des biographies et quand tu lis les biographies de gens inspirants, enfin moi que je trouve inspirant, 100% du temps, c'est des gens qui ont tenté, qui savaient pas trop où ils allaient, qui flippaient grave et en fait ça a marché quoi. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a pas de faut pas se mettre de limites, faut tenter des trucs et au pire on apprend.
Qu'est-ce qui t'inspire, toi ?
Moi, j'aime vraiment bien, je lis beaucoup de biographies très diverses et variées et j'aime bien les docus historiques. J'ai re-regardé récemment celui sur les Daft Punk à l'occasion de leur séparation. Franchement, les Daft Punk, enfin tu vois, je crois que c'est 2014 à Coachella, je sais plus quelle année, tout le monde disait qu'ils étaient foutus, que c'était has-been, voilà, qu'on voulait plus écouter. Et les gars, ils ont lâché le plus gros show qui est devenu un truc historique à Coachella avec une pyramide de lumière. Et ils ont réinventé leur métier de bout en bout. Et tu vois, tu te dis, mais les gars sont juste trop forts, c'est des génies, quoi. Et ça, je trouve que c'est vachement inspirant de voir que, voilà, quelle que soit l'échelle des gens et de la réussite, en fait, derrière, il y a toujours des peurs, des angoisses, des doutes. Et puis ça part de rien, en fait, au début. Donc ça, je trouve ça super, super inspirant.
Est-ce qu'il y a une autobiographie en particulier que tu pourrais recommander aujourd'hui?
Moi j'en ai lu plein. Moi je suis un grand fan de Joseph Kessel qui est un écrivain, donc ça il y a un bouquin qui s'appelle Joseph Kessel ou La Piste du Lion ou Sur la Piste du Lion qui est top, c'est un gros morceau. J'aime bien un peu dans cet univers un peu pareil André Malraux, la biographie d'André Citroën aussi que je trouve cool, la biographie de Cartier-Bresson qui est un photoreporter. Plus récemment et aussi j'utilise pas mal l'application Kuber qui fait des résumés de bouquins, mais il y a la biographie de Xavier Niel, de Marc Simoncini, de gens un peu plus récents. Voilà, j'ai pas lu la biographie d'Obama mais il faudrait que je regarde la biographie de Steve Jobs. Enfin voilà, en fait je trouve que il y a toujours des trucs intéressants quel que soit le parcours.
De quoi est-ce que tu as peur aujourd'hui ? J'imagine que tu as encore des petites peurs quand même.
De quoi j'ai peur ? J'ai peur que le temps passe trop vite, j'ai peur de me dire Je lis pas mal de bouquins de développement personnel, j'en lisais tout à l'heure, mais les cinq regrets des gens qui vont bientôt mourir, tu vois.
C'est drôle, il y a un autre invité dans le podcast qui l'a cité il y a 2 semaines. Ce même bouquin.
Là, tu réfléchis au nombre de semaines de parution, de quand est-ce que t'as enregistré le truc et tout.
À nous, corollaire.
Ouais, et les cinq regrets, je sais pas si je vais tous les avoir, mais c'est un, avoir trop travaillé, deux, pas avoir assez exprimé ses sentiments, trois, pas avoir passé assez de temps avec ses amis, le 4 je vais pas l'avoir et le 5 c'est ne pas vivre la vie que j'ai envie de vivre et plutôt vivre celle qu'on attend de moi. Et ouais, j'ai plutôt peur de ça, tu vois, de pas trouver le bon équilibre entre être ambitieux dans le boulot mais en même temps passer du temps avec ma famille, mes amis et de pas être assez courageux dans les choix que je fais pour ma vie et de se dire que aujourd'hui on est 120 salariés, j'ai des actionnaires, des trucs, et de me laisser trop embarquer dans les contraintes en fait et d'essayer de garder une certaine liberté. Je sais pas si c'est un peu
et
trop ambitieux.
Tu arrives à le trouver un petit peu cet équilibre aujourd'hui?
Ouais, mais c'est vraiment une bataille de tous les jours, tu vois, ouais. C'est des choix, des arbitrages, dire OK, je décide de prendre ce temps-là pour ça et donc du coup aujourd'hui j'ai un petit garçon et ça prend du temps et j'ai envie d'être là pour lui, de trouver le bon équilibre et c'est pas facile parce que ici aussi il compte sur moi, tu vois, aujourd'hui la chaudière marche pas, je suis le seul à savoir faire réparer réparer les chaudières. Voilà, tu vois, est-ce que je prends le temps d'aller réparer les chaudières
ou... Il est arrivé, il a dit à tout le monde, bon, la chaudière marche pas.
Ouais, c'est vraiment une question d'équilibre. Et je pense que ça, si je devais avoir une peur, c'est ça, c'est de me dire de me retourner, de me dire est-ce que j'ai réussi à construire cet équilibre dans le temps.
Mm-mm. Mais justement, à quoi ressemble une journée type de Guillaume Gibault?
Alors, il n'y a pas de journée type, mais c'est vrai que depuis le confinement, ça s'est quand même pas mal résumé à beaucoup de Zoom, de Google Meet chez moi. Donc ça, ça a bien changé. Mais sinon, une semaine type ou une journée type, moi, je suis donc directeur général de la boîte aujourd'hui et j'ai un comité de direction de 9 personnes. Donc j'ai une réunion avec chacune de ces 9 personnes à différents moments de la semaine. Je dois avoir 3-4 autres réunions un peu transverses dans la boîte. Et à côté de ça, donc en gros, je dois avoir, je dirais, un tiers ou la moitié de mon temps en réunion avec l'équipe sur comment on avance les différents sujets, tout ça. Et après, je passe beaucoup de temps à rencontrer des gens, à échanger sur des boîtes qui font de l'innovation, sur la seconde main, le recyclage, l'upcycling. De temps en temps, je vais en usine. De temps en temps, j'échange avec des clients, les gars à Fayette, ce genre de choses. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui montent des boîtes parce que ça me donne des idées. Donc je dirais moitié du temps sur l'équipe en interne et moitié du temps à papillonner un peu, à rencontrer plein de trucs qui sont des projets à venir ou pas pour le slip et des trucs qui n'ont rien à voir et qui me nourrissent.
Ok, on va quand même revenir un petit peu sur les débuts du slip, parce que c'est vrai que je me suis dit qu'il y avait des tonnes d'interviews déjà là-dessus, mais ça serait important d'en parler pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore. Donc tu as été chef de vente chez Bio C'est Bon pendant plusieurs années, et après tu t'es dit « ok, je veux me lancer », et il me semble que tu t'es lancé un petit peu sur un coup de tête, un pari entre amis, où tu leur as dit « bah écoutez, je vais essayer de vendre des slips ». Et c'est sur un pari que c'est parti. Au moment de faire ce pari, est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Qu'est-ce que tu attendais finalement de ce clic?
J'attendais juste de faire un pari avec des potes. Je me suis vraiment dit je l'attends et je fabrique 600 premiers slips et j'arriverai bien à les vendre et au pire je m'en souviendrai pour toute ma vie. Et vraiment j'ai pas d'attente, je me dis pas que ça va cartonner. Je me dis que l'idée est pas bête, quoi. Je me dis que les ventes sur Internet, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas, qu'il n'y a pas une nouvelle marque depuis longtemps, je pense qu'il y a des raisons que ça marche, mais je me dis pas que ça va devenir une boîte, qui fait 25 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui, avec 120 personnes, 20 boutiques en France et potentiellement un des plus gros vendeurs de slips sur Internet en France, quoi. Donc non, clairement, je me dis pas ça, et si j'y pense à ça à ce moment-là, je pense que je le fais jamais, donc je me dis vraiment, je vais tenter le coup, quoi. Vraiment, je tente le coup.
Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes qui aimeraient se lancer aujourd'hui mais qui n'osent pas ?
Moi, c'est ce que j'aime dans l'histoire du slip, c'est que c'est tellement improbable comme histoire que c'est à valeur d'exemple, en fait. En fait, si ce gars-là, il arrive à le faire avec des slips, je peux le faire avec n'importe quoi. Et ça, je trouve ça fort. Et c'est ce qui va aussi dans le JVMG Peur. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme pour ce que vous aimez bien dans la vie, allez-y. Si vous avez une idée de boîte, tentez-la, quoi. Au pire, vous apprendrez, vous vous planterez, et c'est en se plantant qu'on apprend aussi. Moi, je vous dis à ceux qui nous écoutent, lancez-vous, quoi. Tentez-la, même si vos parents sont flippés, et même si, on vous dit autour de vous, faut pas essayer. Si vous avez cette petite voix qui vous dit et qui vous lâche pas d'y aller, juste allez-y, parce que sinon vous allez le regretter. Et 100% des gens qui ont monté leur boîte sont passés par cette phase-là. Enfin, tu vois, c'est pas comme s'il y avait une partie des gens qui étaient passés par ces doutes de j'y vais pas. C'est que 100% des gens qui montent leur boîte et même plus largement qui font des projets créatifs, artistiques qui leur plaisent sont passés par cette phase de doute à se dire j'y vais ou j'y vais pas. Donc allez-y, quoi.
Et pour ceux qui peut-être savent, ont cette fibre entrepreneuriale mais qui savent pas ce qui leur plaît, qui savent pas comment commencer, comment on fait?
Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait General Electric 3 mois. Je suis parti parce que vraiment, ça me plaisait pas. Et je suis allé dans une plus petite boîte qui était Bio C'est Bon. Aujourd'hui, il y a 100 magasins, mais à l'époque, il y en avait 5. Et c'était pas mal de passer par une case où si tu as cette fibre entrepreneuriale, mais t'as pas d'idée, et tu sais pas par où démarrer, aller dans une boîte qui te plaît à l'échelle entrepreneuriale, c'est pas mal. Ça te permet de rencontrer des gens, d'apprendre un secteur. Et pour moi, il y a différents moments où on peut se lancer pour monter sa boîte. Soit on a une idée très tôt et tant mieux, et on y va. Soit on le fait un peu plus tard avec un peu plus d'expérience, peut-être un peu plus de moyens avec une équipe. Donc, il y a pas de schéma tout fait. C'est une bonne option, mais pareil, pas de le faire sagement en envoyant son CV, d'aller trouver la boîte qu'on aime bien, d'aller trouver le fondateur ou la fondatrice et de leur écrire sur Instagram en un message privé en disant j'ai envie de venir bosser avec toi, quoi. Et c'est comme ça que ça marche.
Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur le slip ou sur ta vie de manière générale, un petit moment marquant, un peu croustillant?
Qu'est-ce que je peux te raconter? J'en aurais plein. J'aime bien au slip l'histoire du slip géant sur le toit. Ça c'est vraiment cool. On a dessiné un slip de 50 mètres de diamètre sur le toit d'une de nos usines. Enfin, pareil, dans le genre de truc, tu te dis, mais c'est complètement improbable, qu'est-ce qu'on est en train de foutre là? C'est assez marrant. Et quand le patron de l'usine a dit, ok, c'est trop bien, j'adore, on va le faire, on va le filmer, puis Google Maps. Et donc, du coup, pendant 3 semaines, on a peint un slip de 50 mètres de diamètre sur l'usine, sur le toit de l'usine. Ça, c'est vraiment cool. Après, il y a plein de rencontres sympas. Voilà, les créateurs, Agnès B, toutes les fois, enfin, les... Et pas mal de fois au final on a été invité à l'Élysée, donc ça c'est quand même assez cool. Voilà les campagnes virales qu'on a faites qui cartonnent, voilà, ça c'est des super moments quoi.
Notamment celle pour les campagnes électorales, avec le changement de tout, slip, c'est maintenant.
Exactement.
Bah, c'est ça qui a vraiment lancé le slip, non?
Ouais, exactement, en 2012, je suis un vieux con à parler de ça maintenant, mais
qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt, Guillaume, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de manière générale?
Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre plus tôt? C'est une bonne question. Que faut vraiment se faire confiance. Enfin voilà, quand on est entrepreneur, faut faire confiance à son instinct tout le temps et que parfois quand on se laisse un peu embarquer par ce que les gens qui sont censés savoir dans le métier, parce que ça fait 15 ans qu'ils bossent là-dedans, te disent, mais en fait c'est pas forcément vrai en fait. Et ça peut derrière faire des trucs qui sont plus difficiles à détricoter. Je pense que voilà, faut se faire confiance sur le recrutement aussi. Faut se faire confiance, et même si parfois les personnes cochent toutes les cases, en fait, si on, faut pas essayer de se convaincre que ça peut marcher. Faut vraiment se faire confiance. Un des points, on en parlera peut-être évidemment, mais l'histoire du blackface qui nous est arrivée il y a 2 ans, c'est sûr que il y a deux ans et demi, ça m'a beaucoup 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 fait cogiter.
Tiens, bébé, est-ce que tu peux nous en parler de cette période-là et comment toi tu l'as vécu?
Bien sûr. C'était début d'année 2020. Donc dans la sphère privée, on a deux salariés qui font une soirée dans leur coin et qui apparaissent sur les réseaux sociaux derrière. On les voit voilà dans des déguisés avec un blackface et avec une autre de leurs potes. Et derrière, bah, toute l'entreprise qui est prise à partie sur ce, voilà, en amalgame total entre le comportement privé de 2 salariés et l'entreprise, quoi. Et ça a été super, super dur à vivre, une crise, voilà, humaine, communication, financière, voilà, ça, c'était vraiment compliqué à vivre. Et donc on a géré cette crise de notre mieux, on a essayé de voilà d'avancer. Il faut quand même avoir en tête qu'on a des vendeurs qui se sont fait agresser physiquement par des gens qui sont rentrés en disant d'être que des racistes, ça. Donc, enfin, c'était assez, voilà, c'était compliqué à vivre comme période. On a essayé de traverser ça de notre mieux. Moi, ça m'a vraiment fait cogiter sur le fond, de dire en fait quel est mon rôle à moi dans tout ça en tant que chef d'entreprise. Est-ce que j'ai loupé une étape à un moment donné? Qu'est-ce qui fait qu'il y a le lien qui est fait entre ces deux personnes-là, entre une réalité aussi, c'est que notre équipe, en tout cas au siège, et beaucoup de gens d'école de commerce, et qui est la réalité, c'est qu'il y a très peu de diversité dans nos écoles de commerce, et donc mécaniquement très peu de diversité dans nos startups. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, en tant que chef d'entreprise, toi, t'as jamais pris à bras le corps ce sujet-là. Et tu t'as recruté au plus pratique sur Facebook ou les gens autour de toi, t'as recruté sur Welcome to the Jungle, tu t'es jamais dit comment est-ce que je peux essayer de donner sa chance à des gens qui viennent peut-être pas de ce parcours-là. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin moi c'est une de mes convictions, que l'entreprise c'est pas juste quelque chose qui doit gagner de l'argent, c'est quelque chose qui doit avoir un impact sociétal et environnemental super fort. On a plein d'atouts au slip, la fabrication locale, les matières, enfin on est hyper engagé sur ce sujet-là, mais c'est vrai que d'un point de vue inclusion et diversité, on n'avait pas fait grand-chose. Et je me suis dit, bah merde, est-ce que c'est de ta faute? Enfin, c'est quand même l'épisode du ravive quoi qui remet en question. Et je me dis, bon bah c'est vrai que j'aurais dû dès le départ mettre en place des politiques d'inclusion dans l'équipe, et si c'était à refaire, je referais différemment. Alors aujourd'hui, on s'est impliqué vachement dans une démarche, je sais pas si t'as vu passer, qui s'appelle Take Your Place, et je vous encourage tous à aller voir, qui est un super mouvement qu'on a monté avec Mosaïque RH et Diversitas, qui sont deux acteurs historiques de la diversité et de l'inclusion. Et ça nous fait cogiter de ouf sur 5 thématiques clés de la diversité et de l'inclusion: l'égalité homme-femme, la différence d'âge, LGBT+, la diversité multiculturelle et le handicap. Et du coup, ça ouvre en fait le spectre de dire en fait, en tant qu'entreprise, bah, est-ce que tu bouges sur ces sujets-là qui sont des sujets de société hyper d'actualité? Et voilà, et je trouve que du coup, enfin... Et après, avec le recul, enfin, tu vois, tu te dis, t'es chef d'entreprise, ton boulot d'abord, c'est d'exister, de vendre un produit, enfin, t'as d'arriver à créer une boîte, une équipe, et tu te rajoutes, voilà, tout ça, c'est des contraintes et de la difficulté en plus, et voilà, si c'était à refaire, tu vois, ce qui est compliqué, c'est dans un premier temps, c'est assez normal de recruter des gens autour de toi parce que tu peux pas tout faire en même temps, mais assez vite d'arriver à mettre en place ce genre de politique de recrutement, et on l'a pas forcément fait au début, donc je pense que le cas de beaucoup de startups, et c'est tout l'enjeu de Take Your Place d'arriver à essayer d'avancer sur ce sujet-là. Donc là, ouais, clairement un gros apprentissage et qui vient par une crise, et je crois que ça sert aussi à ça, les crises, quoi, ça fait bouger, quoi.
Est-ce que vous avez ressenti, enfin vu vraiment un réel impact sur les résultats de l'entreprise ou pas? Ou c'est plus juste de l'image qui a été légèrement salie?
C'est compliqué de te répondre parce que c'était janvier 2020, au moment des grèves nationales, oui. 2 mois avant le début du Covid. Donc si tu veux, mais ce qui est sûr, c'est que oui, on a eu un impact au début de l'année 2020. On s'est fait péter des vitrines. Enfin, un impact humain super fort en interne. C'était compliqué à gérer. Et après, le début de l'année 2020 était compliqué. Après, ça nous a aussi permis, je pense, de vraiment fédérer l'équipe sur 2020 dans le Covid, où on a rebondi. En ayant à cœur de montrer nos valeurs et ce qu'on avait, voilà, ce qu'on est, qui on était vraiment, et moi le premier, et notamment avec Savoir-Faire Ensemble. Je sais pas si t'as vu passer ça, mais oui. On s'est, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup impliqué pour aider la filière à structurer une fabrication de masques pour réagir face au Covid. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être le premier président de l'association Savoir-Faire Ensemble. Et Savoir-Faire Ensemble, on a réussi par un fichier Google Sheet qu'on a bricolé dans la nuit avec quelques personnes de l'équipe, à mettre en relation 1200 ateliers pour fabriquer près de 200 millions de masques et 10 millions de blouses pour fournir le grand public dans les premières phases du Covid. Donc quand on est challengé aussi fort dans un peu qui on est, ce que ça veut dire le slip français en début d'année par cette histoire-là, je trouve que voilà, c'était une belle réponse que de montrer qu'on était des gens engagés et ça je crois que c'est très slip.
Ton job, c'est aussi d'avoir des idées. Est-ce que tu as des petits tips d'organisation ou je ne sais quoi qui te permettent de laisser fructifier tout ça?
Ouais, écoute, j'ai plein de tips d'inspiration parce que moi, c'est vraiment un truc qui me parle. Je trouve que dans mon job d'entrepreneur, c'est un des trucs que j'adore, c'est de trouver des nouveaux trucs. Du coup, je fais beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Clubhouse, qui est en train de péter les scores en ce moment, sur lequel je passe beaucoup de temps, sur LinkedIn aussi. Donc, j'ai une bonne veille et j'essaie de suivre les bons comptes, les bonnes newsletters, dans des secteurs différents, mais j'essaie d'avoir une veille proactive et je l'ai structuré. Enfin, tu vois, pareil, c'est pas un hasard, quoi. C'est pas parce que tu regardes le site du Monde tous les jours que tu vois les bons trucs passer. Faut s'inscrire aux bonnes newsletters sur les bons trucs. Enfin, tu vois, ça peut être TechCrunch aux États-Unis ou Madines ou des newsletters diverses et variées. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'être bien structuré là-dessus. Après, j'essaie de beaucoup lire et j'utilise pas mal l'application Kuber dont je te parlais tout à l'heure, qui fait des résumés de bouquins, donc ça c'est cool. Au début, j'étais très partagé dans l'idée de le faire parce que j'adore lire et je me dis c'est quand même chiant pour un auteur qui se fait chier écrire un bouquin de se dire qu'en fait on va lire un résumé, mais en fait je me dis, tu vois, typiquement la biographie de Xavier Niel, je pense que j'aurais pas lu le bouquin en vrai, et pardon Xavier si tu entends ça, mais j'aurais peut-être pas lu le bouquin en vrai pendant les vacances, mais oui. Par contre, lire le résumé en 10 minutes me donne envie finalement d'acheter le bouquin, et ça a été le cas pour pas mal de livres que finalement j'ai acheté après avoir lu le résumé. Donc, je fais ma paix avec ce sujet-là. Mais du coup, c'est il y a plein de bouquins de développement personnel, la 25e heure, la semaine de 4 heures, tous ces trucs là c'est important de les avoir lus, t'aimes ou t'aimes pas, mais tu prends et tu construis ta façon de réfléchir et de t'organiser. Donc et là-dessus, sur mon site JMGPeur, j'ai mis plein de conseils dans les vidéos JMGPeur, j'en ai mis plein, donc je pourrais t'en parler des heures.
Ouais, je mettrai tous les liens,
mais là il y a pas mal de ressources pour ceux qui qui cherchent à réfléchir et à s'organiser. Mais le principe de base, je trouve, pour être capable de trouver des idées, c'est d'être bien organisé et de se remettre en question toutes les semaines de son organisation, ses flux d'infos, et de globalement d'être actif de son agenda, en fait, de pas subir la semaine et les réunions et le temps qui passe, en fait, d'utiliser bien son temps.
Comment tu t'organises, toi? Est-ce que ton agenda pour la semaine prochaine, il est déjà booké ou...
Ouais, moi j'essaie d'être organisé à 2-3 semaines d'avance. Okay. J'ai tous ces créneaux fixes déjà d'équipe qui bougent pas, donc ça c'est plus facile. Mais j'essaie de, et j'ai bloqué des créneaux où je sais que c'est que des créneaux pour moi, où j'ai pas de notif, où personne va m'appeler, où j'ai le temps de lire et de regarder sur le papier. Hein. Après, ça marche pas toujours aussi bien, mais dans l'idée c'est ça.
Et au-delà de la lecture des livres, des résumés de livres, où est-ce que tu trouves un petit peu d'air Est-ce que t'as un échappatoire, que ce soit le sport, les voyages, ou je ne sais quoi? Je crois que tu fais du kitesurf.
Ouais, j'essaie de faire un peu de tout. D'abord, c'est vraiment ma femme et mon fils. Franchement, tu vois, moi, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi et c'est juste le bonheur total. Et franchement, quand, tu vois, on a des galères, des trucs, je le regarde et je me dis, en fait, c'est ça la vraie vie, c'est ça le plus important et le reste. Donc ça. Et ensuite, je fais pas mal de sport. Je cours. Je me suis entraîné avec mon frère à 2-3 courses un peu longue distance et tout, donc ça oblige à s'entraîner. Et j'aime bien tous les sports de glisse, snowboard, planche à voile, kitesurf, ça j'aime bien. J'essaie de progresser. Je suis pas encore très bon, mais j'aime bien. Et ça vide la tête de ouf. Enfin, franchement, ça arrête le temps. Donc j'en fais pas assez. J'aimerais bien en faire plus. Mais ouais, j'ai trouvé des trucs et quel que soit le truc qui marche pour les gens qui nous écoutent, faut trouver ce qui, voilà, certains ça peut être la cuisine, le ciné, j'en sais rien, mais trouver des trucs qui vraiment vous font kiffer, je pense que c'est important et moi je trouve que dans un bon rythme, moi je vais souvent faire du sport à l'heure du déj et en fait, parfois on se dit j'ai pas le temps et en fait, je vais gratter la demi-heure pour bosser une demi-heure de plus, mais en fait, aller courir 3 quarts d'heure, en fait, ça aère la tête et derrière on est bien meilleur et on a bien de meilleures idées donc ça c'est important d'être rigoureux en fait, d'être discipliné et globalement, enfin, l'entrepreneuriat et où les projets, c'est, pour moi, c'est vraiment des trucs de long terme. Moi, ça fait 10 ans, j'ai monté ma boîte. Et c'est vraiment c'est un marathon plus qu'un sprint, quoi. Donc, ça sert à rien d'aller gratter une demi-heure de taf, de plus par-ci par-là. Vaut mieux, voilà, être bien organisé et avoir les idées fraîches et neuves. Et je pense que c'est comme ça qu'on est bon. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de
Est-ce que cette discipline, tu l'as acquise au fil des années, des expériences? Est-ce que c'est la prépa qui te l'a apprise ou est-ce que tu l'as toujours eu un petit peu de manière innée?
Non, je pense que je l'ai vraiment construite avec le temps. Je pense que je l'avais pas au début quand j'ai démarré. Et c'est justement en lisant des bouquins, tu vois, notamment sur Cooper, en regardant ce que faisaient les autres, en échangeant, en trouvant les, et je pense que c'est important de trouver aussi sa recette. C'est-à-dire, tu vois, tu peux pas prendre un bouquin et dire, OK, je fais exactement ça, mais par contre, en échangeant avec d'autres j'ai passé beaucoup de temps, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, j'aime bien ça. Et il y a toujours des bonnes idées, donc t'essaies d'améliorer ta routine, ta façon d'organiser, et puis aussi, c'est pas un truc acquis, quoi, tu vois. Après ta vie perso change, tu peux déménager, t'as des enfants, t'as le Covid, tu vois, il y a des trucs qui font que ta routine change, quoi, donc pour ça toutes les semaines faut un peu la changer, quoi.
Par curiosité, tes journées de travail, elles sont plus de l'ordre de 7h, de 10h ou de plus?
C'est je démarre à 9h, 9h30 et je finis à, aujourd'hui j'arrive à finir franchement à 18h30, 19h,
donc, ça dépend des jours,
10h, ouais. Et je bosse franchement très rarement le week-end. Donc c'est plutôt raisonnable. Mais par contre, j'essaie d'être ultra efficace. Vraiment, je déroule, quoi. Et pas de notif, pas de truc. Enfin, j'essaie d'être focus, quoi. Pour faire rentrer plein de trucs entre 9h30 et 19h.
On va passer aux questions un peu plus philosophiques. J'aime bien la philosophie. Quel est le moment où tu t'es senti le plus heureux?
Écoute, dans les moments de flow, comme on appelle ça.
Oui. Tu lis bien du développement personnel.
J'ai bien du développement personnel et j'ai fait du coaching aussi, ce que je recommande, hein, ce qui est cool. J'ai un coach, donc ça c'est top aussi. C'est vraiment trop bien. Et dans les moments de flow, moi j'aime bien tous les moments d'adrénaline dans le taf, dans les sports de glisse, dans la naissance de mon fils, évidemment, bien sûr, mon mariage, trop bien, c'est trop cool. Plutôt dans ce temps-là. Et après, un peu plus concrètement, moi j'aime bien les moments où je sens que dans l'équipe, tu vois. Les gens passent un cap, ou vraiment où je sens que je leur ai apporté quelque chose et qu'ils ont grandi et qu'ils ont pris des décisions et qu'on a fait un truc cool et que tu vois, et que c'est pas moi qui l'ai fait, mais que c'est l'équipe, tu vois, qui a réussi à faire un truc. Là, je me dis, waouh, ça c'est vraiment cool. Et quand je sens quelqu'un qui passe un cap ou qui est trop content et trop fier du truc qu'il a réussi à faire, et là, je me dis, ouais, ça c'est vraiment cool. Donc ça me fait bien kiffer.
Et au moment où l'histoire du slip s'est quand même un petit peu emballée, je veux dire, les débuts du slip, quand tu as senti que ça prenait, que ça marchait, que ça perçait, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais l'impression que ça te dépassait un petit peu, que c'était trop? Ou est-ce qu'au contraire, t'étais vraiment dans l'euphorie du truc?
Non, j'étais vraiment dans le truc. Je me suis jamais senti dépassé. Mmh. Je suis vraiment pas naturel inquiet, donc je me laisse aller. Je me suis jamais senti que ça allait trop vite. Jamais flippé. Franchement, j'aurais peut-être dû, hein, mais non, j'ai jamais flippé. Il y a eu des moments durs, bien sûr, hein, mais je me suis jamais senti dépassé jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce fameux jour. Il paraît que tu as plein de citations dans les notes de ton téléphone.
Ouais,
tu aimes bien écrire plein de notes.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a une que tu préfères parmi toutes ces petites notes?
Je vais regarder, voilà, quelle est la dernière que j'ai notée. Ouais, tu vois, elle est pas mal. J'en ai deux qui ont rien à voir, mais du coup, je suis obligé de te dire les deux. Je l'ai noté récemment. Il y en a une de Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »
Très beau.
C'est pas mal. Et celle d'en dessous, c'est Big Flo et Oli. Un jour, j'irai sur la lune. Un jour, j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit. Parce que je la vois aussi, alors je la monte du doigt et ça devient possible.
Très beau.
Voilà, dans un autre thème. Mais j'aime bien. Ça me ressemble pas mal d'avoir Saint-Exupéry et Big Flo et Oli l'un au-dessus de l'autre.
Tu t'es toujours intéressé à la littérature comme ça?
Non, pareil, c'est venu super tard. J'ai commencé à lire vraiment pareil. En fait, c'est en commençant à lire que j'ai pris le déclic de réfléchir un peu où je voulais aller. Et c'est un pote qui m'a offert un premier bouquin de Kessel, Joseph Kessel. Il m'a offert Fortune Carrée et Les Cavaliers. Et après, j'ai acheté Mermoz, ou il me l'a offert Mermoz, je sais plus. Mais c'est vraiment la biographie de Mermoz, je te l'ai pas cité dans la biographie, mais c'est vraiment ce bouquin-là, où il te raconte l'histoire d'un gars dans les années 30 qui traverse l'Atlantique dans un avion sans radio, sans GPS, sans rien, à 10 mètres au-dessus des vagues, et que ça lui prend 25 heures de vol. Et moi, je suis dans l'RER en costard, en train d'aller faire des fichiers Excel, et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Donc ouais, c'est la lecture qui m'a fait cogiter, et après du coup j'ai pris goût à ça, j'ai lu de plus en plus, mais je me suis mis à lire vachement tard. Alors que tu vois, en prépa j'ai fait de la philo, des machins et tout, mais j'étais pas picousé à ce moment-là.
Qu'est-ce que tu ferais si tu étais pas président du SLIP? Est-ce que tu as des rêves?
Souvent je me dis que je serais prof de planche à voile sur une île au soleil, et que ce serait beaucoup plus simple. Mais je me dis que je tournerai peut-être un peu en rond, donc ça j'aimerais bien. Mais après, souvent je me projette dans l'après, dans le jour où je serai plus président du SLIP, parce que je le serai pas forcément toute ma vie. Même si je rassure ceux qui m'écoutent, hein, je suis encore pour quelques temps, ne vous inquiétez pas, vous m'avez encore sur le dos quelques temps. Mais le jour où je le serai plus, j'aimerais vraiment bien, tu vois, être dans un rôle un peu de mentor, business angel, accompagner des entrepreneurs qui poussent des nouveaux modèles avec un fort impact sociétal, environnemental, les aider, les accompagner, éventuellement les financer si je peux, et faire le lien avec ce que j'aime bien, ce côté sport de glisse, tu vois. Je me dis, je pourrais faire des séminaires au vert, un peu coaching, développement personnel, et faire du kite en même temps, et je pense que ça pourrait être cool.
Mais voilà. Ce côté un peu mentor coach, tu le développes un petit peu aujourd'hui avec l'association Savoir Faire Ensemble, ouais. J'ai l'impression. Dans 20 ans, tu te vois encore président du SLIP?
Non, dans 20 ans, je crois que je serai plus président du SLIP. Dans 20 ans, c'est chaud, j'aurai 55 ans.
Et toujours à Paris?
Non. Non. Dans 20 ans, je serai peut-être revenu à Paris. Mmh. Mais j'ai très envie à un moment donné d'aller faire vraiment un beau voyage autour du monde, soit en bateau, soit en van ou en 4x4 avec mes enfants, et vraiment prendre le temps de leur faire vivre des trucs différents et ouais, j'ai vraiment envie de ça. C'est pas pour tout de suite, hein. Je sais que là j'ai encore quelques années devant moi à fond, mais j'ai envie de ça. Et je trouve que c'est cool de faire vivre ça à ses enfants. Et moi, je l'ai pas forcément fait, mais j'ai très envie de le faire.
Est-ce que tu conseillerais à ceux qui terminent leurs études aujourd'hui, qui vont peut-être commencer leur vie professionnelle, de faire ces voyages-là, cette découverte personnelle avant? Ou de faire comme toi, plus vraiment bien lancer son activité et puis le faire dans un second temps.
Je pense qu'il y a pas de, encore une fois, il y a pas de recette toute faite. C'est à chacun de trouver si vous avez l'opportunité, l'envie, le budget, l'occasion. Faut y aller, faut prendre quoi. Je pense que si vous avez l'occasion de partir 4 mois, 6 mois, il faut le faire. Et moi, je vois trop souvent des gens qui sont entre deux jobs, parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, et enfin, tu vois, c'est pas une fin en soi. Tout le monde n'est pas obligé de le faire, et il faut aussi se méfier parfois du côté où on starifie, on a beaucoup mis en couverture de magazines les entrepreneurs, et tant mieux, et ça nous a vachement porté. Mais je pense que ça reste difficile, c'est pas pour tout le monde, et il faut pas le faire à tout prix. Il faut surtout trouver un métier, partir de ce qu'on aime bien et de voir comment on peut en faire un métier. Et en tout cas, moi, je vois trop de gens qui se dépêchent d'aller trouver du boulot, qui sont hyper stressés quand ils sont entre deux jobs. Et voilà, et on se dit vite, et autour de soi, les gens disent, t'as toujours pas trouvé, quand est-ce que tu recommences à bosser et tout. Et en fait, c'est difficile, socialement, de dire, en fait, je travaille pas en ce moment. Et je pense qu'il faut l'assumer, de dire, en fait, je fais autre chose, et je prends le temps, et je prends ces 2 mois, ces 3 mois, ou ne serait-ce que ces 3 semaines, pour faire un truc qui me tient à cœur, et même si ça rentre pas dans le moule ou dans le cadre, il faut le faire, quoi.
Écoute, Guillaume, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager pour terminer cette interview?
Non, mais bravo à toi et c'est chouette. Donc lâche rien. Bravo pour tes relances et je te l'ai dit. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, je te mets au défi d'avoir des beaux invités de plus en plus impactants et qui ont fait des beaucoup plus grandes choses que moi dans la suite de ton podcast. Donc voilà, c'est le défi que je te lance. De rien lâcher et de continuer voilà à partager ces voilà ces parcours là et si tu peux trouver des gens de voilà de tous horizons qui ont fait des parcours différents pour montrer que voilà que quel que soit la famille, le background et les écoles que tu peux faire, tu peux tenter ta chance et y arriver. Je pense que ça fera beaucoup de bien à tout le monde. Donc voilà, je t'encourage à foncer, à y aller et à ceux qui nous écoutent de faire pareil, de voilà, de rien lâcher et où vous en soyez et qui que vous soyez, si vous avez une idée, un projet auquel vous croyez, lancez-vous et voilà, au pire, ça vous fera des souvenirs et des apprentissages pour la suite. Donc j'y vais, mais j'ai peur, c'est un peu ma tagline.
Merci beaucoup, Guillaume.
Merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.